Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, vous pouvez prendre vos Bibles, il y aura quelques textes à lire. Ou sinon, peut-être on pourra les afficher. Parfois, nous avons des fardeaux sur nos cœurs, des situations qui semblent inéluctables, sans solution, sans issue. Et cela peut durer depuis des mois, des années, des dizaines d'années. Des situations, des problèmes, des blessures pour lesquelles on se dit, consciemment ou inconsciemment, que ça ne changera jamais, qu'il n'y aura pas un remède à cela. Et ce matin, je voudrais vous annoncer un message d'espoir qui vient du ciel même, de Dieu le Père, apporté aux hommes par Jésus son Fils, et qui n'est pas resté seulement un message, parce que Jésus, par son œuvre, a tout mis en place pour que nous soyons au bénéfice de la grâce de Dieu. Gloire à notre Dieu. Et ce message aujourd'hui, il est relayé par le Saint-Esprit, aujourd'hui à travers le monde, jusque dans nos cœurs respectifs. C'est un message qui nous invite toujours à espérer. Et le titre du message de ce matin, ce sera « Espérons toujours ». Alors, on va commencer par un premier point. Comment toujours espérer? Comment notre espoir en Dieu peut-il demeurer intact face à l'adversité, face aux conceptions humaines, aux fausses croyances, aux assauts du temps? Et pour répondre à cette question, nous allons nous aider de trois récits de la parole de Dieu, pour commencer. Alors on va lire dans Marc au chapitre 10, verset 46. Il s'agit de l'histoire de Bartimée, que l'on connaît bien, je pense. Peut-être si vous êtes parmi nous pour la première fois, que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Voilà, c'est une histoire connue, mais vous allez apprendre à la connaître. Marc chapitre 10, au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelle-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Gloire à Dieu. Et je voudrais focaliser sur peut-être un aspect de ce passage. C'est vrai que nous pouvons être facilement découragés par les autres ou par les pensées qui nous assaillent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on s'est vite fait une petite pensée de rien du tout et ça peut faire que notre journée, on la passe autour de cette pensée finalement et puis on est entraîné finalement dans des pensées de découragement. Et on voit ici Bartimée qui ne s'est pas laissé décourager. Il est marqué « Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire à terre ». Donc j'imagine qu'il y avait cette foule qui passait et il y en a beaucoup qui essayaient de lui dire « Non mais ça suffit là, maintenant c'est bon, calme-toi ». Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il crie de plus belle. Nous aussi, voilà, c'est un premier message qu'on peut garder ce matin. Nous aussi, gardons toujours l'espoir que Jésus nous entend, même si tout semble montrer le contraire, puisqu'au début, Jésus ne répond pas. Il l'avait bien sûr entendu. Ne nous laissons pas décourager. Continuons, persévérons, comme Bartimée a pu le faire. Alors nous allons aller voir un autre passage. Il s'agit d'une femme étrangère, cette fois-ci, qui va venir vers Jésus, dans Matthieu, au chapitre 15, et au verset 21. Matthieu, chapitre 15, verset 21. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi !» Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, » reprit-elle. « Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc fait comme tu veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait qu'ils se sont passés le mot, Bartimée et cette femme cananéenne. Ils ont la même expression quand ils viennent voir Jésus. « Fils de David, aie pitié de moi. » C'était juste la plaisanterie, mais je crois qu'ils avaient compris à qui ils s'adressaient. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle est aussi, elle est aussi découragée par son entourage. Voilà les disciples qui disent « Renvoie-la on ne sait pas si elle l'a entendu, certainement, ce n'est pas sûr. Peut-être ils l'ont dit à l'aparté. En tout cas, ce n'était pas pour l'encourager à venir à Jésus. Mais comme Bartimée, effectivement, il fallait qu'elle persévère, elle a poursuivi, elle a crié. Mais il y avait autre chose pour elle, encore une difficulté à passer supplémentaire, qui pouvait anéantir son espoir, c'est de croire qu'en tant qu'étrangère au peuple d'Israël, elle n'avait pas droit à la bonté de Dieu. La bénédiction, elle était effectivement manifestée de façon particulière pour le peuple d'Israël, mais toute la Bible nous montre combien Dieu accueille tous les hommes qui s'approchent de lui avec respect et foi. Voilà, parfois on a des conceptions dans nos vies, des choses qui en fait ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas la parole de Dieu même. Et je dirais, on en a la preuve que la grâce de Dieu était aussi pour elle, la bonté de Dieu. C'est que quand on regarde la généalogie de Jésus, donc la généalogie du Fils de Dieu, même si la naissance de Dieu était surnaturelle, bien sûr, hein, mais si on lit la généalogie, on retrouve une prostituée cananéenne. C'est une cananéenne, comme cette femme dont nous venons de lire l'histoire, mais en plus c'est une prostituée. Vous vous souvenez, peut-être Vincent avait prêché sur elle récemment. On retrouve aussi Ruth, qui est une moabite. Deux femmes étrangères qui ont expérimenté largement la grâce de Dieu. Je pense que si voilà, vous connaissez leur histoire, Dieu les a vraiment sauvées vraiment de la situation dans laquelle elles étaient. Alors, comme cette femme cananéenne, n'accordons pas de crédit à des fausses croyances, à des principes humains, mais gardons espoir en nous appuyant sur les paroles qui proviennent de Dieu lui-même, en considérant son amour et sa bonté pour tous les hommes. Amen. Une troisième histoire, celle de Anne. Donc on va faire un bond en arrière dans le passé. Premier livre de Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Alors je ferai des sauts dans la lecture, c'est juste pour être un peu plus court, et pour vraiment cibler ce sur quoi nous allons parler. Je pense que ça ne dénature pas le texte pour autant. Donc au verset 1, je lis « Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Yéroam et petit-fils d'Eliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsouf, un Éphraïmite. Il avait épousé deux femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. » Donc à l'époque, c'était coutumier d'avoir plusieurs femmes. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Penina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Juste après, très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Je vais sauter plusieurs versets. Je n'ai pas noté le verset, mais c'est un peu plus loin. Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils entrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. C'est toujours particulier de lire cette histoire. Et ici, on voit Anne qui est aussi découragée. Je dirais même, ça va même plus loin, c'est vraiment de la persécution. Elle est découragée, persécutée par Pénina. Et Elkana, son mari, essaie de l'encourager. En fait, il n'y arrive pas vraiment. Et même, ça pourrait étouffer ce peu d'espoir qu'il reste en elle, puisqu'il dit je vaux plus que 10 fils. Voilà, tu m'as, donc tu n'as pas besoin d'un fils. Mais elle, son espoir, c'était d'avoir un fils. Et c'est comme s'il avait dit, je suis là, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de fils. Donc quelque part, elle pouvait se résoudre à cela et abandonner, c'est vrai, cette requête qu'elle apportait certainement à Dieu tous les ans, régulièrement. Elle aussi, comme la femme cananéenne, doit faire face aux préjugés de l'époque qui établissaient qu'une femme stérile était sous la malédiction de Dieu. Pourtant, ça n'en était pas une. Suivez-moi bien. C'est Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Et bien sûr qu'il avait le plan qu'elle soit féconde pour que Samuel vienne. Donc, était-ce une malédiction? Certainement pas. C'était plutôt une bénédiction, parce que son fils Samuel sera vraiment... vraiment une grande bénédiction pour Israël à plusieurs égards. Mais pour Anne, il y avait encore un obstacle de plus, un de plus que pour la cananéenne. C'est le temps, la longueur de l'épreuve. Combien d'années a-t-elle passé en espérant voir sa prière exaucée? C'est pas marqué. Malgré toutes ces années, sa foi est toujours là. Et cette fois-ci, il y a une intensité dans sa prière qui n'est pas celle des autres fois. Cela nous incite à persévérer. Sa prière était différente. Elle était différente, elle venait du fond des entrailles, de ses entrailles. Elle était devant Dieu, elle n'avait pas d'autre alternative. Et elle remettait encore ce sujet, cette requête, ce besoin devant Dieu. Et cette fois-là, Dieu l'a exaucé. Bien sûr que ce n'est pas la qualité de notre voix, la façon dont nous prions qui va faire la différence, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Anne. D'ailleurs, là, quand elle vient demander, on n'a que cette prière, on n'a pas les prières d'avant, hein, mais on comprend qu'elle dit « Je te consacrerai mon fils », peut-être elle ne l'avait pas dit avant. Il y avait quelque chose, en fait, qu'il fallait que peut-être... Elle accepte, elle veut y faire. Dieu l'a amené jusque-là, et là, Dieu l'a exaucé. Voilà, en résumé, pour toujours espérer, ne nous laissons pas décourager pour quoi que ce soit. Parce qu'il y aura toujours des occasions de se décourager. Il y en aura toujours. Ça peut être même dans notre propre famille, involontairement, sans le savoir. Ça peut être dans l'église, ça peut être bien sûr des gens qui nous en veulent, ça peut être simplement des pensées mauvaises que Satan nous envoie. Vous savez, comme ces flèches qu'il envoie. Attachons-nous à ce que Dieu est, à ce qu'il est, et à ce qu'il a réellement dit. Voilà, les préceptes humains, parfois on accepte des choses dans nos vies, c'est comme des monuments un peu. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, ça ne correspond pas à ce que Jésus a pu dire, à ce que Dieu a pu dire pour nous, à ce que Dieu veut réellement. Et enfin, ne soyons pas influencés par le temps, parce que le temps, c'est l'affaire de Dieu. Voilà, mais simplement, prions, déposons notre fardeau, continuons d'espérer, surtout, continuons d'espérer. Amen. Un deuxième point, très très important, c'est que nous n'importunons pas Dieu, nous ne le dérangeons pas. Jésus n'est pas agacé par quelqu'un qui viendrait constamment lui réclamer quelque chose, comme Jésus n'est pas agacé non plus lorsqu'on vient vers lui et qu'on a peut-être fauté pour la 30e fois sur la même chose, ou plus, peu importe, Jésus nous accueille de la même manière comme la première fois. Nous ne le dérangeons pas, il n'est pas comme nous. Nous, c'est certain, on sera dérangé. Moi, si je suis au travail et que quelqu'un, je demande à quelqu'un, par exemple, avec qui je travaille, est-ce que tu peux faire ça pour moi? S'il faut que j'y revienne 30 fois, je sais que je vais m'agacer, il y a quelque chose qui va se passer, c'est sûr. Je ne vais pas rester stoïque. Bien sûr, Dieu nous parle, bien sûr, il y a des jugements de Dieu, etc. Il y a la justice de Dieu, bien sûr. Mais quand on revient vers lui repentant, quand on revient en espérant en lui, il nous accueille. Et on ne le dérange pas, on ne l'importune pas. Alors ça, on peut le lire dans Luc, au chapitre 18 et au verset 1. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Notez bien comme ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leur droit promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Amen. Nous ne dérangeons pas Jésus, je le disais juste avant, espérons, prions en considérant que Dieu ne tarde pas à nous répondre. C'était dans ces versets à la fin, vous l'avez vu. Jésus ne tarde pas à nous répondre. C'est-à-dire que nous ne devons pas considérer le temps. En fait, pour lui, la réponse viendra toujours au bon moment. Et quand on attend quelque chose de la part de Dieu et quand elle arrive, en général, on dit oui, c'était... Voilà, Dieu savait toute chose. Il savait que c'était maintenant qu'il fallait me répondre. Et on peut noter aussi que Jésus ne tarde pas non plus à revenir. C'est à la fin. Et on peut se poser la question, est-ce que notre foi, notre espoir restera intact jusqu'à son retour? Oui, je crois qu'il faut que notre foi, notre espoir reste intact. Oui, notre espoir pour le salut dans le ciel, bien sûr, mais aussi notre espoir au jour le jour, au quotidien, pour... tout ce qui peut nous arriver, pour aussi le salut du plus grand nombre. Voilà, et à la suite de Luc 18, on ne le lira pas pour aller un tout petit peu plus vite, mais on s'aperçoit, suite à une autre parabole, que si nous avons de l'orgueil, cela dérange Dieu par contre. Il y a un point vraiment qui peut déranger Dieu, c'est l'orgueil. Et donc, vous le savez, n'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Ça, c'est quand même Voilà, une petite parenthèse que je voulais faire, parce qu'on le voit d'ailleurs dans les exemples de Bartimée, de la femme cananéenne qui vont vers Jésus. Ils sont vraiment dans le respect, ils sont vraiment en considérant qu'il est le Fils de Dieu, etc. Et considérant qu'ils sont rien et qu'ils ont besoin de Dieu. Voilà, donc, bien sûr, il faut veiller à ne pas avoir de l'orgueil dans nos cœurs. Continuons. Livre de Marc, Évangile de Marc, chapitre 5 et verset 35. Alors là, désolé pour la lecture, je ferai un gros saut. On fait un peu de sport ce matin. Je sauterai le passage central, vous allez comprendre, vous connaissez la lecture, je pense, pour la plupart. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Donc c'est là que je vais aller bien plus loin. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Alléluia. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne. Et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Gloire à Dieu. Jésus est avec une foule immense qui a plein de besoins. Essayez de vous imaginer. Jésus est avec une foule immense. C'est ce qui est marqué. Hein, une foule immense. Une foule immense qui a plein de besoins. On ne va pas aller le déranger. Il ne va pas pouvoir intervenir. Et de toute manière, ma fille sera morte avant qu'il arrive. C'est ce qu'aurait pu penser Jaïrus. Mais il ne s'est pas laissé décourager. Il a bravé la foule pour atteindre Jésus et se jeter à ses pieds. Vous voyez, le début de la lecture, il est très résumé. Mais il faut s'imaginer Jaïrus qui part de chez lui, qui doit trouver Jésus là où il est, où c'est au bord de l'eau. Avec cette foule immense, il doit traverser. Il n'avait certainement pas une autoroute là, pour passer avec tout le monde qui lui faisait des courbettes. Non, il a fallu qu'il brave la foule. Et certainement, il a fallu qu'il arrive à voir même où il est, parce que s'il y avait tant de monde que ça, peut-être qu'il ne pouvait pas le voir de suite, il ne savait pas exactement où il était. Tout cela pour dire que parfois, eh bien, ça prend du temps d'aller vers Jésus. C'est pas immédiat. Mais ce qui est sûr, c'est que Jaïrus a bien fait, son espoir a été comblé. Alors, le troisième point que nous allons aborder, c'est le suivant, c'est que nous devons nous approcher de Jésus, tout simplement. Si nous espérons, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si Jaïrus était resté dans sa maison, j'espère que Jésus va passer. Bien sûr que Dieu peut connaître les besoins et aussi intervenir. Il est grand, il est tout puissant, il agit comme il le veut. Ça, c'est certain. Mais Jaïrus est allé vers Jésus. Il s'est jeté à ses pieds. Donc, dans ces histoires que nous avons lues, toutes ces personnes qui étaient dans le besoin, qui avaient espoir de voir Jésus les secourir ou secourir en proche, si elles n'étaient pas venues se jeter aux pieds de Jésus, elles n'auraient rien obtenu. Jésus a dit: demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, j'ai envie de dire, nous avons l'essentiel, parce que nous sommes en communion avec Dieu. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes donc en présence de Jésus lui-même, comme Bartimée, la femme cananéenne, ou bien Jaïrus, ou bien d'autres. Mais il faut que nous nous approchions tout près de lui. Dans chaque cas, il y a la foule, et certains sont restés en retrait, et ne se sont pas approchés de Jésus. Pourtant, certainement, beaucoup d'autres avaient des besoins, et d'autres l'ont fait aussi, tout n'est pas écrit, bien sûr, dans les évangiles. Et cela demande parfois du temps, comme je le disais tout à l'heure un peu. Il faut chercher, on vient de lire, cherchez et vous trouverez. Enfin, je vous ai lu plutôt, voilà. Cherchez et vous trouverez. Donc parfois, il y a un besoin de chercher. Oui, c'est vrai, on retient souvent de demander et vous recevrez, mais il y a aussi chercher et vous trouverez. Et pour Jaïrus, il a dû chercher, il a dû trouver Jésus au milieu de cette foule immense. Il faut arriver jusqu'à Jésus. Vous savez, j'ai réfléchi à un exemple qu'on pourrait avoir, et vous savez, c'est comme la chaleur d'une cheminée dans une maison. On va se dire que c'est encore plus flagrant avec une cheminée foyer ouvert, vous voyez. Imaginez-vous, je sais qu'on en a été, on rêve plus de clim que de cheminée, mais bon. Si on reste loin, on n'a pas la sensation de chaleur, ou très très peu. Bien sûr, c'est mieux que dehors, bien sûr. Mais voilà, c'est peut-être pas suffisant. Mais si on se place juste devant la cheminée, devant le feu, devant les flammes, la chaleur nous envahit et nous fait du bien. Et de même, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse pour être face à Jésus, rempli de sa présence. Ne nous contentons pas d'une prière distante de temps en temps. Je le précise bien, j'ai bien mis la personne « nous » ici. Ne nous contentons pas, je m'inclus bien dans le lot. Ne nous contentons pas d'une prière distante de temps en temps. Nous devons nous approcher au pied de Jésus. Nous devons être au contact très près du feu, on va dire, pour être réchauffé, pour être vraiment revigoré, pour avoir une réponse de notre Seigneur. En conclusion, nous pourrions nous décourager en nous disant que Dieu agit là-bas, dans cette église, dans cette ville, dans ce pays, pour telle personne, pour telle et telle raison, mais qu'il n'agira pas pour moi ici. Et cela fait tellement de temps que j'attends. Voilà, c'est cela qu'on pourrait finalement soit continuer, soit on peut tomber là-dedans et être dans ce découragement, qui peut être un découragement profond, mais aussi peut-être quelque chose juste finalement assez léger, qui concerne une situation dans nos vies ou des choses voilà, qui nous découragent. Mon frère, ma sœur, quel que soit ce qui pèse sur ton cœur, quel que soit le besoin intérieur ou physique, continue d'espérer en son secours. Approche-toi de lui, crois seulement, ne te laisse pas décourager. Jésus te connaît dans le plus profond de ton être, de tes pensées. Il te comprend parfaitement, à l'inverse de ton entourage qui peut te décourager. Il faut aller vers Jésus. Il te répondra selon ton besoin précis. Il ne se trompera pas. C'est sûr que s'approcher de Jésus, c'est accepter qu'il dévoile nos vies en ouvrant notre cœur comme un livre. Nous ne demanderons pas de choses égoïstes en sa présence, parce que quand on est vraiment au contact de Jésus, on comprend, quand on est vraiment face à face, on comprend qu'il est tout puissant et on ne peut pas jouer de rôle. Alors c'est sûr que voilà, notre cœur sera, je dirais, à nu devant Dieu et on ne demandera pas voilà, des choses pour notre intérêt. Mais je crois qu'il est bon de croiser son regard, de faire face à ces questions. Vous avez vu ces personnes qui sont approchées de lui, elles ont eu une question. Il a fallu qu'elles persévèrent aussi après ces questions. Elle n'était pas facile, la question de la Cananéenne. Elle est surprenante, sa réponse. Parce qu'elle avait vraiment compris qui était Jésus. Et je crois que, voilà, lorsqu'on croit son regard, lorsqu'on fait face à ces questions, c'est comprendre aussi l'amour de Jésus. Et cela va nous marquer pour la suite. Voilà, espérons toujours et approchons-nous de lui. Ayons des moments de plus en plus intenses avec Jésus. Nous savons que nous sommes dans ce monde happé par toutes sortes de choses, des choses légitimes, des choses que nous devons faire, etc. Mais nous devons aller au pied de Jésus, nous devons espérer, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer, nous devons être au contact de sa personne. Et c'est vrai, si ce matin, il n'y aura pas de moment de prière, mais je pense que cela doit se passer dans notre chambre, la porte fermée, au pied de Jésus. Lui demander sa grâce, lui demander de nous remplir de son esprit et pleinement dans sa présence. Oui, je crois que Dieu peut vraiment agir, peut vraiment nous changer, peut enlever des blocages que nous pouvons avoir en nous, peut nous faire aller plus loin, peut nous ouvrir les yeux sur des réalités spirituelles. Nous avons besoin de cela. Nous ne devons pas rester là où nous en sommes, nous devons aller plus loin. Là où nous en sommes, peu importe, nous devons progresser et grandir avec Jésus, avoir ces moments de face à face avec lui. Et il répondra, il répondra, il répondra. Voilà, je terminerai juste par un petit verset, c'est dans Michée au chapitre 7 et verset 7. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. » Mon Dieu m'exaucera. Amen. Voilà, prions. Jésus-Christ, tu es vivant, Seigneur, et c'est en toi que nous nous confions. C'est vrai que nous allons partager le pain et le vin comme tu nous l'as enseigné. Et nous voulons réaliser, Seigneur, que tu veux avoir cette communion avec nous. Ton esprit est là, merci de l'avoir déposé dans nos cœurs. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu remplisses nos vies, afin que dans ces moments personnel, nous puissions avoir cette intensité auprès de toi, comme auprès au tout près du feu. Nous voulons recevoir ta grâce, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui veut guérir, Seigneur, comme nous l'avons lu. Tu es celui qui ressuscite aussi. Tu es tout puissant. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Et nous savons que dans nos vies, il y a peut-être des fois des choses aussi qui ont besoin d'être ressuscitées, d'être transformées complètement. Ô Seigneur, nous attendons encore à toi, Seigneur. Nous voulons considérer que c'est vrai, tu as tout accompli. Et que tu as tout accompli pour notre pardon, mais tu as tout accompli aussi pour nous délivrer du péché, pour nous guérir dans nos corps également. Tu as tout accompli, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous voulons prendre avec respect, c'est vrai, ce matin, ce pain, ce vin, qui ne sont que des symboles, Seigneur. Mais toi, tu as tout accompli. Tu règnes aujourd'hui et tu es là. Et lorsque nous venons vers toi, Seigneur, avec cet espoir dans nos cœurs, oui, tu nous accueilles. Oui, tu nous reçois. Oui, Seigneur, tu nous accueilles les bras ouverts, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait pour chacun de mes frères et sœurs ici. Merci, Seigneur, encore pour ce temps que nous avons. Sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus.